Une bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Je reviendrai sur une seule parole, l'épisode précédent, la finale. Je la redis, eh bien vous aussi, quand vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, dites-vous, nous n'avons fait que notre devoir, nous ne sommes pas indispensables. Et c'est sur cette finale que j'aimerais reprendre pour établir le lien, cette finale qui est paradoxale, regardez bien, écoutez bien. Nous ne sommes pas indispensables, nous n'avons fait que notre devoir. Et pourtant, dans le sens même du lien entre les deux propositions, elles sont indéniablement liées. Si nous n'avons fait que notre devoir, qui l'aurait fait si nous ne l'avions pas fait? Dans ce cas-là, nous étions bien indispensables à ce moment-là. Donc nous rendrons compte que la réflexion vient du fait que un autre, formé comme nous l'avons été, pouvait tout aussi bien remplir ce devoir. Et encore là, il y a quelque chose de paradoxal. J'emploie ce mot à dessein. C'est que tout travail fait, prenez l'enseignement par exemple, ou le sermon du dimanche. Je parle de cela parce que je m'y connais, étant moi-même enseignant et prêchant régulièrement. Le thème, les textes qui vous sont proposés, les trois pendant le dimanche, sont les mêmes partout, dans toutes les églises du monde, quelle que soit la langue. Et le prêtre qui dira la messe, quelle que soit sa dignité propre, réalisera le mystère même du Christ, puisque c'est en son nom qu'il dit « je ». Mais l'utilisation et du mystère et des textes va bien dépendre de ce que la grâce a fait en nous, c'est-à-dire des dons qu'elle nous a donnés, de notre capacité à les assumer et à les utiliser. Donc si nous ne sommes pas indispensables pour accomplir les tâches pures et simples, nous sommes peut-être indispensables à cause de la qualité de notre personne. Nous sommes qui nous sommes et pas un autre. D'où la grande responsabilité d'accomplir ce que nous faisons avec les qualités que nous avons reçues. Et le même enseignement, le même texte de Baudelaire, d'Éluard ou de je ne sais qui d'autre, de l'Évangile par exemple, vont avec votre voix, votre génie personnel, votre personnalité, avoir un impact qui sera différent. Alors oui, mon cher Luc, nous ne sommes pas indispensables, nous aurions pu ne pas naître, nous sommes contingents, mais le fait est que nous sommes là, que vous êtes là, cher auditeur, dans votre voiture, et que vous entendez ce que je vous dis au nom de Dieu, vous avez reçu, vous-même, vos qualités, et de faire ce que vous faites n'est pas indifférent, puisque c'est vous qui le faites, et pas un autre.
ils avaient pris la route de Jérusalem et ils longeaient pour l'heure la frontière samaritano-galiléenne. Un village se profilait à l'horizon. Dès les premières maisons, on aperçut 10 lépreux qui venaient à leur rencontre. Ils s'arrêtèrent net à distance, chacun observant chacun. Mais reconnaissant Jésus, les lépreux se mirent à crier « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus leur dit seulement « Allez vous montrer au prêtre !» Et pendant qu'ils s'en retournaient, voilà que la lèpre les avait abandonnés. En s'apercevant qu'ils étaient guéris, l'un des lépreux revint sur ses pas. Jésus et disciples n'avaient pas bougé. L'homme guéri louait Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. C'était un Samaritain, et Dieu sait pourtant que Juif et Samaritain. Jésus eut cette réflexion. « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont les 9 autres ?» Personne n'a donc pensé à revenir pour remercier Dieu, sauf cet étranger. Tout en le reprenant par les épaules, Jésus dit à l'homme, « Allez, lève-toi, tu peux partir, c'est ta foi qui t'a sauvé. » En traversant le village, on croisa un groupe de pharisiens qui ne laissèrent pas passer l'occasion de lui poser une question. « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Ce n'est pas avec les yeux que l'on pourra constater sa venue. On ne dira pas « Le voici, le voilà, le royaume de Dieu est là, au milieu de vous, parmi vous !» Et il ajouta plus doucement, « Il est en vous !» Ils reprirent leur chemin, mais Jésus continua à s'adresser aux disciples. « Le temps viendra où vous désirez revivre un des jours passés avec le Fils de l'homme. Ce sera impossible. On vous dira, « Voyez par là, voyez par ici, n'y allez pas, ne cherchez pas. » Quand ce sera le jour, le Fils de l'homme éblouira comme l'éclair qui traverse le ciel en l'illuminant d'une extrémité à l'autre. Mais d'abord, il faudra qu'il souffre beaucoup et que les gens d'aujourd'hui le rejettent. Cela se passera exactement comme à l'époque de Noé. Les gens mangeaient et buvaient, on épousait, on se mariait jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ce fut le cataclysme et tout fut anéanti. Même chose au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient jusqu'au jour où Lot a abandonné Sodome. Ce fut la pluie de soufre et de feu, et tout fut anéanti. Quand le Fils de l'homme doit apparaître, ce sera comme ça. Alors, si vous vous trouvez sur une terrasse, inutile de descendre prendre quoi que ce soit. Si vous vous trouvez dans les champs, ce ne sera pas la peine de revenir. Rappelez-vous la femme de Lot. Vous perdrez la vie à force de vouloir la sauver. C'est paradoxalement en la perdant que vous la conserverez. Cette nuit-là, les couples auront beau être enlacés dans leur lit, on emmènera les uns, on laissera les autres. Deux femmes moudront du grain ensemble, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Épouvantés, les disciples l'interrompirent. Où se passera-t-il, Seigneur ? Les vautours se rassembleront au-dessus du cadavre. Il venait de leur tenir un discours formidable, c'est-à-dire un discours à faire peur et pas rassurant du tout. Un discours sur la fin du monde, où plus rien n'est clair, où l'on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Un temps où personne n'est prêt parce que personne ne s'y attend et pour cause. Un temps où personne ne veille, où personne ne se doute. Une épreuve à l'échelle du monde, de l'univers peut-être, de la création entière, qui sait. La venue du royaume ne se laisse pas observer. C'est comme ce qu'il avait commencé de répondre au docteur de la loi, au professeur, aux pharisiens qui l'interrogeaient. Ils en étaient abasourdis parce qu'il avait parlé d'un trait, presque sans reprendre haleine, sans s'essouffler, avec une expression douloureuse à la limite de la dureté. Il n'était habituellement pas tendre avec eux. Cela ne le gênait nullement de leur asséner leurs 4 vérités à eux, qui se considéraient comme savants, sages et justes. Mais cette fois-ci, Jésus sentait que son discours était terrible et qu'il provoquait plus de peur que d'espérance, plus d'implacabilité que d'ouverture. Les disciples n'en menaient pas large non plus. On a beau vivre l'Apocalypse tous les jours, on ne peut pas se résoudre à disparaître définitivement. Jésus sentait tout cela maintenant. Il s'était arrêté de débiter comme le Jourdain au jour des grandes eaux, les tourbillons impétueux de la prophétie. Il prenait lui-même conscience de cette condition humaine, vouée en définitive à redouter l'improbable tout en espérant l'imprévisible. C'était un homme lui aussi, tendu lui aussi vers l'espérance de la foi. Alors, il voulut leur raconter une histoire pour illustrer la seule voie capable d'apaiser les remous de l'âme et de nourrir l'espoir fou de la vie. Priez, il faut prier sans jamais se lasser. Priez toujours et encore.
Il faut prier sans jamais se lasser, prier toujours et encore. Et en même temps, je ne peux pas ne pas mettre en lien avec la quelques lignes plus haut ce qu'il nous rapporte. Il prenait lui-même conscience de cette condition humaine vouée à redouter l'improbable tout en espérant l'imprévisible. C'est le contenu même de la prière. Non pas dans ce cas-là d'objectif, c'est-à-dire d'exprimer, de formuler, de crier, redouter l'improbable et espérer l'imprévisible. Prier comme cela, c'est s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire, après avoir fait l'analyse de tout, d'avoir tiré les conclusions humaines des analyses que l'on a faites, et de se préparer, autant qu'un homme le peut, aidé par la grâce de Dieu, pour affronter le présent et l'avenir, tout en redoutant ce qui est improbable, parce que l'improbable est aussi possible, mais en espérant l'imprévisible, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas prévoir et qui est lui aussi possible. Mais ces deux possibles, l'improbable et l'imprévisible, ne sont pas dans la main de l'homme, mais dans la main de Dieu. S'en remettre à Dieu pour que l'improbable ne se passe pas et que se passe l'imprévisible demeure du mystère même de la prière, c'est-à-dire qu'il demeure informulable.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.